RMC.
On va pas prendre tout le football français sur le dos.
Putain, non, non. Et chaque fois, il y a une petite phrase. Assassine. C'est toujours assassin, assassin, assassin.
Si j'ai un petit mot à dire à Rosy, qui marque des buts et qui se la ferme un peu sur le banc. Je pensais que les saules pleureurs, c'était au bord de la rivière. Il y en a aussi dans les stades.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit, ok? Allez, ciao, bonne soirée.
Jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot, Gilbert Brébois.
Bonsoir à tous, After est là jusqu'à minuit. Comme tous les soirs, nous sommes en direct, bien sûr, dans l'After. L'After à la radio sur RMC, l'After à la télé sur RMC Sport News. L'After, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Ils sont là, ce soir, Pierre Ducrot, évidemment, l'homme du lundi. Salut Pierre.
Bonsoir messieurs.
Et Jonathan Macardy. Eh oui, Jonathan est là ce soir.
Salut.
Daniel n'est pas là parce qu'il prépare le match de l'After. Hein, donc séance physique ce soir.
Il y a du boulot. Hein.
C'est une blague.
C'est une blague.
Ah oui, c'est vrai.
Séance tactique plutôt.
Ouais. Ouais, il m'a sorti une excuse bidon en fait.
Ah parce que t'as dit ça en plus qu'il fallait qu'il se prépare pour
peut-être
le match
il a poker
ou peut-être ils se sont encore roustés au poker roustés ouais. C'est pas il a poker il sait se prendre des fessées sur les fesses. Sa femme s'inquiète, ils ont dû mettre leur maison en hypothèque pareil.
Ah mince.
À ce point-là parce que moi j'ai entendu dire ça mais bon.
Excellente info. Ouais. Alors l'événement dans l'After ce soir, deux événements en fait. Hein, c'est dans, le premier événement c'est Atem Ben Arfa qui quitterait. On va analyser tout ça. Vous aurez les infos dans quelques instants. Et deuxième événement on le confirme. Info de Nice matin confirmée par RMC Sport. L'OGC Nice sur le point d'être vendu. Info à suivre dans quelques secondes et on débattra. On vous attend supporter.
Et t'as oublié l'info du jour.
Laquelle?
Victoire 4-1 de l'Irlande face à la Chine au tournoi de Toulon. C'est ça. Doublé d'Adam Iza.
Ouais, non, effectivement, c'est pas l'info du jour.
Victoire de la France hier aussi.
Effectivement.
Ouais, on s'en fout, ça t'as raison.
Ouais. On va aussi parler de Griezmann et de l'équipe de France. Jonathan veut en parler. On va parler de Griezmann et du Barça. Là, c'est Pierre qui veut en parler avec l'appui de Fred Hermel tout à l'heure. Et puis, comme tous les lundis, le foot européen avec les drôles de l'âme, évidemment. Il y a déjà plein d'actu mercato en Allemagne, en Italie, en Angleterre.
C'est calme chez nous, hein.
Et en Espagne.
Ouais, chez ça n'a pas démarré encore. Il se passe rien pour l'instant.
Il y a pas eu une belle signature pour l'instant, tu vois.
Bah là, même une pas belle d'ailleurs quand même.
Il y a eu les coachs.
Non,
il y a eu Aaron Moukoudi à Saint-Etienne, c'était un beau coup. Toi, tu suis.
Ouais, mais c'est entériné depuis quelques temps.
Mais c'est vrai. C'est quand même le seul bon coup qu'on a eu depuis le choix.
Mais on a du mal à expliquer pourquoi ça démarre pas cette saison. Il y a toujours à cette époque-là quelques protocoles signés déjà quand même.
Exactement. Des fins de contrat.
Ouais, voilà. Là, pour l'instant, ça met du temps à démarrer.
C'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'actu mercato,
non, il n'y a rien. Grand chose.
On a du direct également ce soir. Les espoirs se préparent à leur Euro, qui démarre, la semaine prochaine. France-Belgique, espoir ce soir au Mans. Loïc Braillet est sur place. Salut Loïc.
Salut Gilbert. Salut messieurs. Salut tout le monde. Et ça se passe plutôt pas mal pour les Bleus qui mènent 2-0. Alors la Belgique c'est quand même assez faible. Hein. Les jeunes Belges ils sont loin de leur aîné en termes de niveau. En revanche la compo d'abord de Sylvain Ripoll a plutôt de la gueule sur le papier et c'est plutôt pas mal du tout ce que l'on voit sur le terrain. 2-0 avec des buts de Reine Adélaïde et Dembélé. Alors ou Aouar parce qu'en fait ils ont plutôt tous les deux touché le ballon au même moment où le ballon a franchi la ligne.
Dans Olivier Tom.
Exactement.
Les frères Baker. Non, c'était pas les frères Baker qui frappaient en même temps. C'était qui?
Je sais plus, mais c'était une double puissance dans le ballon qui était aplatie. Du coup, c'était magnifique. Juste la compo pour vous la donner rapidement. Bernardoni dans les buts. Balotouré, Konaté, Upamecano, Dagba pour la défense. Touzard, Aouar au milieu. Bamba, Ikoné, Reine Adélaïde et Moussa Dembélé. C'est quand même pas mal comme équipe. Ouais. On a vu un Ikoné fabuleux sur la première période qui a fait sur le deuxième but un déboulé sur le côté droit en repiquant dans l'axe à la fin. Bref,
tout le monde très investi Loïc.
Écoute, ça a démarré un petit peu lentement. Les premières minutes c'était très très calme et puis c'est monté tranquillement. On va rappeler que sur les derniers matchs c'était moyen puisqu'il y avait eu cette défaite face aux Danois lors du dernier rassemblement du côté de Brest. Il y avait eu 4 matchs nuls avant donc ça fait un petit moment qu'ils ont pas encore gagné mais ça fait un petit moment qu'ils ont pas remporté un match quand même les hommes de Ripoll et effectivement tu l'as dit Gilbert, l'Euro démarre le 16 juin, c'est en Italie à Saint-Marin que ça se passe, on sera sur place bien sûr pour accompagner ces Bleuets, première phase finale rappelons-le depuis 2006 quand même et grosse ambition, grosse pression mise par la fédération, Le Graët les attend en finale, il y a eu un discours de Deschamps vous l'avez peut-être vu sur rmcsport.fr où on vous l'a mis sur ces dernières heures, il les surveille de très très près et voilà, il attend des résultats parce que potentiellement dans ce groupe-là il peut y y avoir certains qui montent en A, un de ces quatre, si jamais Deschamps le décidait, quoi.
C'est vrai qu'il y a Mbappé aurait pu jouer 7 euros.
Il y en a plein. Il y a Mbappé, il y a Ndombele, il y en a quelques-uns qui auraient pu y participer, effectivement.
Il y a du monde au match, dis donc.
Écoute, on est
Il y avait plus de monde pour le barrage Le Mans-Gazélec. Ouais,
et d'ailleurs, les joueurs du Mans ont été célébrés à la mi-temps. Il y a quoi? Il y a 5000 personnes peut-être.
Ouais, c'est pas. Non, mais c'était bien sûr ironique.
Dites pas la Belgique.
Il y a des pays où les équipes espoirs, tous leurs matchs sont pleins.
Ouais.
Dis-moi, la Belgique, ils gagnent plus jamais un match contre nous, en fait.
Ils ont déjà gagné.
Ben non, mais tu vois, c'est.
Ouais, c'est un petit peu quand même, mais ouais, non, mais c'est. Ah, tu ne remue pas le couteau dans la plaie, Gilbert.
Mais ils jouent avec Léa et Zeka en pointe. C'est quand même, c'est impressionnant.
Ah ouais, en effet. Bon, évidemment, tu nous tiens au courant. Il y a aussi le basket ce soir, demi-finale de championnat de France entre Monaco et Dijon. Gilouata.
Salut Gilbert, salut à tous. Effectivement, match de demi-finale et Monaco qui a, pour l'instant, maintient un bel écart, 14 points d'écart avec Dijon 61 à 47. Il reste 2 minutes dans ce troisième quart-temps et les Monégasques qui ne vont pas s'y reprendre. Ils se sont fait rattraper la dernière fois et ont été poussés en prolongation pour le match 1 par les Dijonais. Cette fois, ils arrivent à maintenir l'écart et ne se font pas surprendre. Il reste 2 minutes à jouer dans le troisième quart-temps. Et donc 61 à 47 pour Monaco.
À tout à l'heure. Alors, on va parler de Rennes dans quelques secondes. D'ailleurs, Xavier Grimaud est déjà là, il patiente. Mais d'abord, l'actu niçoise, puisque c'est tombé là il y a quelques minutes à peine. Vous savez qu'il y a un processus de vente dont on parle depuis quelques semaines maintenant. Et bien ce soir, RMC Sport confirme des infos de Nice Matin. L'OGC Nice est en passe d'être acheté par donc le milliardaire anglais Jim Ratcliffe, qui est la première fortune britannique, il est multimilliardaire, et là il a fait une offre de plus de 100 millions d'euros qui a été acceptée par les dirigeants les dirigeants
d'une belle offre. Hein. Non mais c'est une offre extraordinaire parce que quand tu regardes
le prix d'un joueur de foot.
Oui, mais quand tu regardes
au-dessus de ce qui a été racheté le PSG et Marseille par exemple.
Je plaisante bien entendu.
Tu regardes la valorisation des joueurs de l'OGC Nice de l'effectif, ça vaut plus jamais 100 millions d'euros.
Après, là il y a Attal qui a quand même de la valeur, Saint-Maximin.
Ouais, mais
attends, non, mais en plus tu peux pas réagir comme ça parce que le club a un coût de fonctionnement. T'as beaucoup de choses qui te coûtent de l'argent aussi en même temps.
Après, on peut le comprendre que l'offre soit aussi élevée parce qu'il y a plusieurs choses. T'as le bassin de population qui fait que le club est attractif. T'as un fort bassin de population. T'as tous les environs de Nice avec par exemple une ville comme Sophia Antipolis où il y a pas mal d'investissements autres que dans le football à faire. T'as beaucoup de gens qui peuvent ne demander qu'à aller au stade. T'as le stade aussi qui vient qui
est tout neuf, qui est tout beau. Stade et son entraînement.
Ouais. Alors le stade n'appartient pas au club, hein. C'est important de préciser quand même.
T'as quand même un bel outil. Bon. Et puis surtout, je pense qu'il y a quelque chose qui fait aussi la différence, c'est que à Nice, t'as les pouvoirs locaux qui sont quand même vachement derrière le club. Ça va pas causer de problème. Je pense que ça sera assez facile pour un investisseur.
Je pense même que ça les arrange grandement que le propriétaire actuel s'en aille.
Je sais pas si un mec comme ça qui arrive déjà milliardaire, etc. Si c'est réellement comme certains un vrai investissement. Je pense plus que c'est un passionné qui voulait un club de football.
C'est plutôt bon signe ça.
Je pense que c'est le profil de gars qui peut.
Alors, je vais vous donner quelques infos sur lui.
Il peut acheter sans attendre en retour uniquement le retour sur investissement, mais plutôt la vitrine, le foot, la victoire, etc.
C'est Nice et puis surtout attends, c'est Nice, c'est une belle image, c'est une ville qui est mondialement connue. Oui, oui. Et surtout
par les Anglais, ils adorent Nice.
Et voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est la promenade des Anglais, voilà, juste ça.
Alors, Ratcliffe, c'est la première fortune du Royaume-Uni, fortune estimée à 24 milliards d'euros. Donc le mec, s'il veut s'acheter Messi,
il peut le faire jouer dans son jardin, dans son salon.
Voilà. Alors, je vais pas faire rêver les supporters niçois tout de suite, hein. Mais n'empêche que voilà.
Ça arrive, tu peux rêver un petit peu quand même. Hein.
Alors c'est un gars qui vient d'un milieu modeste. Il était ingénieur chimiste et il a créé un groupe qui s'appelle Ineos, spécialisé dans les produits chimiques. Alors c'est un groupe un peu controversé, hein, parce que on les taxe souvent d'être un pollueur. Assez important. Donc souvent ces activités font polémique, mais enfin voilà, il investit beaucoup dans le sport puisqu'il a racheté l'équipe cycliste Sky il y a quelques semaines de cela.
Qui est la meilleure équipe cycliste.
J'espère qu'il n'y aura pas des produits chimiques qui sont passés par le vélo qui arriveront dans le vestiaire
Il a une usine à Marseille, hein. Il est présent dans 24 pays. Voilà, donc il a fait fortune surtout ces dernières années puisque son activité a connu un boom énorme à partir de 2017, anobli par la reine et tout. Donc il habite à Monaco.
C'est et sur place.
Pour des raisons totalement dues au
la vue, climat. La vue.
Non,
la vue,
bien pour, sûr. Pour la vue, pour la vie nocturne, c'est toujours sympa.
Bien sûr.
Bah oui.
Voilà. Et pour les impôts, bien sûr.
On ferait la même chose à sa place.
Alors, il possède aussi 4 jets privés et 2 yachts. Ça, c'est pour l'anecdote.
Pour les impôts. Ça veut rien dire, ce que tu dis, Gilbert. Pour les impôts. Et il faut avoir la nationalité monégasque pour ne pas payer d'impôts.
Les ressortissants de l'Union européenne qui ne sont pas français.
Ouais, ça c'est pour les Français.
Ont aussi de gros avantages fiscaux.
Mais oui, mais ils payent quand même, mais ils payent quand même quelque chose.
Oui, mais ils payent pas comme s'ils étaient restés à Londres, monsieur. Voilà. Un Italien, par exemple.
La convention fiscale entre Monaco et l'Angleterre n'est pas la même.
Il y a que les Français qui se font avoir, en fait.
Ouais. Il faut rester marié 5 ans.
Ah bon?
Au résident, non?
Non, mais si tu veux devenir monégasque, résident, tu payes quand même des impôts.
Ouais, mais beaucoup moins. Au bout de 5 ans, non? C'est pas, il y a pas un truc comme ça?
Non. Résident, tu payes un petit peu moins, mais pour avoir le même régime fiscal que les monégasques,
tu payes pas spécialiste de la fiscalité monégasque.
Ouais.
C'est intéressant.
Alors, il y a un peu plus de conséquences entre se marier et être résident.
Alors, avant de parler de, oui, alors, déjà, ça veut dire qu'on se marie avec une monégasque.
Oui.
Ou un monégasque.
Avec une monégasque, oui.
D'accord. Tony est là, il est supporter de Nice. Tony, il s'en fout de ses histoires d'impôts à Monaco. Lui, il est supporter de Nice.
Il paye ses impôts à Nice.
Salut, Tony.
Oula, je paye pas mes impôts à Nice du tout, les gars. Salut.
Ah, salut, Tony. T'es d'où?
Je suis parisien, moi, pur et dur.
D'accord.
Mais supporter de Nice?
Bien sûr, supporter de Nice. Non, mais parisien pur et dur parce que j'y travaille, mais supporter de Nice.
Ah, d'accord.
T'es de Nice.
T'es un Niçois expatrié, quoi, en quelque sorte.
Non, t'as pas l'accent de Nice.
Je suis un Normand niçois expatrié, exactement.
On n'est pas obligé d'avoir l'accent pour être de Nice.
Hein. Regarde, Gilbert, il nous a fait Strasbourg, mais avant, il était supporter de Nice. Hein. Tout le monde a oublié.
Ah, mais en fait, j'ai des acquaintances avec Nice. Ouais. J'ai des amis, d'ailleurs, qui écoutent, là, et qui sont comme des fous parce qu'ils voient déjà arriver...
Je les comprends.
Ils voient déjà arriver de 12 stars, tu vois.
On va demander à Tony, mais...
Bon. Tony, toi, t'es content? Alors, faut que la vente se concrétise. Hein. Bon, enfin, là, il y a quand même une bonne avancée ce soir qui va dans ce sens.
Oui, je pense que la vente, elle va être faite. Et oui, je suis content, mais... on a envie de rester prudent, c'est toujours pareil, mais je suis surtout content que Chenier s'en aille, en fait, que nos actionnaires actuels s'en aillent, ouais. Parce que depuis que ça a fuité dans la presse, notamment la question du prêt à 22 millions d'euros, là, qui devait rembourser à 9% à une société luxembourgeoise, qui a été attaquée en justice en Suisse, Talos, je crois qu'il s'appelle. Nos actionnaires, ils s'étaient remboursés dans les caisses du club en empruntant à un taux d'intérêt fort. Quand on a appris ça, on était un peu déçus, c'est un petit mot. Donc voilà, on est content déjà que eux ils partent. On sait que le projet, on sait pas grand chose du projet, mais on sait qu'il y a une envie aussi de racheter le stade pour le club. Moi, je suis à fond pour, et je crois que la municipalité est à fond pour aussi. Et surtout, vous en avez un peu parlé juste avant, mais en effet, c'est un multimilliardaire, donc ça fait rêver. On a l'impression qu'il peut tout acheter malgré le fair play financier. Mais c'est surtout que c'est pas forcément une volonté de trading, je pense. C'est vraiment une volonté de passionné et une volonté de redorer l'image d'Ineos. Qui est justement, oui, empêtré dans quelques petits scandales de pollution. Et ils l'ont, quand il a racheté Sky, c'est aussi pour ça, c'est pour donner une bonne image. Et je pense que c'est ce qu'il a envie de faire avec Nice, qui est un club attrayant, dans une ville attrayante, et qui est suivi, qui est apprécié des Anglais. Donc,
ouais, c'est ça,
pour que ça se passe bien.
C'est ça, ah, franchement, j'ai l'impression que c'est l'anglais qui est amoureux, de la ville, etc. Amoureux du foot, comme les anglais aussi. Et pour lui, c'est le compromis parfait pour avoir une belle,
c'est une belle exposition. Nice, c'est un beau club. Après, attention, les deux petits bémols réserves qu'on peut mettre, c'est que premièrement, il avait aussi racheté un club en Suisse où ça s'est pas forcément hyper bien passé. Il l'a toujours d'ailleurs, Lausanne, il est toujours, c'est toujours à lui.
Il l'a toujours, ouais.
C'est toujours à lui. Donc voilà, il avait eu pas mal de bruit quand il avait pris
le club. Il avait été détenu par Kita, avant que Kita soit Nantes.
Ils avaient pris Enzo Zidane, ils avaient se faire 2-3 trucs, mais ils ont finalement été relégués. Et puis après, attention, avoir beaucoup d'argent, ça ne garantit pas que la personne va mettre beaucoup d'argent dans son club. Regardez à Rennes, par exemple. On peut avoir un exemple comme ça aussi.
Tu sais qu'il en a mis un petit peu d'argent à Rennes quand même.
Oui, non, mais d'accord, mais pas au niveau pas au niveau d'un club
aussi
comme
plus
le PSG ou quoi.
S'il avait envie.
Tu vois,
non, mais après je attends, si je peux réagir là-dessus, c'est aussi une question de structure. Le club, on a réussi à avoir de super résultats sur les dernières saisons avec très peu d'argent, mais avec une bonne structure, de bons dirigeants. On parle beaucoup du retour de Fournier d'ailleurs, avec Radcliffe.
Pourquoi pas de River en président délégué, va savoir.
Ouais, pourquoi pas, mais apparemment c'était assez compliqué dans les négos, on sait pas trop où ça en est là-dessus, mais c'est vrai que si la structure...
Oui, parce qu'il faudra qu'on éclaircisse le rôle de Jean-Pierre River dans l'offre de Radcliffe.
Oui.
Parce que vraisemblablement... Il aurait pu servir d'intermédiaire parce qu'il a plusieurs fois répété qu'il avait présenté des investisseurs potentiels. Exactement. Est-ce qu'il s'agit de Radcliffe ou pas? Il y a une rumeur qui dit que oui. Bon, ça reste à tout ça confirmer.
Il y a aussi une rumeur qui dit que c'est River et Fournier qui auraient fait fuiter l'histoire du prêt auprès de Nice Matin, pour la sorte, et que justement que les supporters soit en faveur du rachat.
En rappelant que Rivière et Fournier sont partis parce qu'ils ne s'entendaient pas du tout avec les actionnaires majoritaires.
De toute manière, quoi qu'il en soit, c'est une excellente nouvelle si ce rachat est acté.
Ah, après. But pour les espoirs, les gars, je vous coupe le Braille au Mans.
Eh ben oui, ça fait 3-0 pour les espoirs. Oussem Aouar, cette fois, ouais. Pour le troisième but, sans souci, le deuxième a bien été attribué à Dembélé. C'est sur un corner et un petit cafouillage, une petite déviation en tout cas devant le gardien au premier poteau. Et ça a été dévié. Ouais, je suis même pas sûr que ce soit Aouar finalement. En dernier, c'est peut-être Reine Adelaide, ouais, tous les deux. En tout cas,
c'est Reine Adelaide
qui signe un doublé donc ce soir. Et il y a eu trois changements à la mi-temps: Malang Sarr, Anthony Cassi et Romain Del Castillo qui est rentré aussi. Voilà, petite revue d'effectifs. Il y a Sylvain Ripoll qui disait ces derniers jours qu'il souhaitait voir des associations. Voilà, que ce genre de match permettait aussi de voir du monde sous tension en compétition. Bah, il y a trois autres joueurs là qui vont rentrer dans quelques instants. Il y aura un dernier match amical la semaine prochaine en Autriche avant de basculer directement en Italie. Ils ont quitté définitivement Clairefontaine, les espoirs. Ils ont trois jours off à partir de demain, le stage en Autriche avant de rejoindre l'Italie et Saint-Marin. Et le premier match de l'Euro sera contre l'Angleterre avec la Croatie et la Roumanie dans leur groupe. Ça va pas être évident, mais voilà, encore une fois, objectif dernier carré et finale. 3-0 donc pour les Bleus.
Exactement. Il y a un truc, on a rajouté un petit drapeau au-dessus du coq sur le maillot des équipes de jeunes. Là. Les U20, ils ont aussi ça. Je sais pas pourquoi. Non, tu vois, au-dessus du coq, là. Il y a un petit drapeau. Ils ont pas l'étoile. Ils ont pas d'étoile, évidemment.
Pour les A.
Et à la place, du coup, il y a un petit drapeau bleu-blanc.
Le drapeau français, blanc, rouge. Ouais. C'est mignon.
Ah, vous aimez bien?
Ouais, je trouve que c'est bien. Oh, oui, c'est toujours bien d'afficher les couleurs nationales.
Oui, je sais que toi, t'es un amoureux des drapeaux.
C'est très bien.
Ouais, en tout cas, c'est non, je trouve ça esthétique aussi.
Fais la levée du drapeau chez toi le matin avec
pour les grandes occasions, oui.
Pour les grandes occasions, très bien. Merci Loïc, à tout à l'heure. 3-0 hein, pour les Bleus. Alors, on finit avec Tony qui est toujours là, supporter niçois. Est-ce que Tony, parce que l'espoir pour Nice, ça peut être maintenant le suivant, c'est que Nice finalement monte d'un cran dans la, on va dire dans la hiérarchie économique.
Oui, très clairement.
Dans la hiérarchie économique du foot français, c'est-à-dire au-dessus de clubs un peu équivalents, comme aujourd'hui, je sais pas moi, Bordeaux, Rennes, Saint-Etienne,
Moi, avec un mec comme ça à sa tête.
C'est Marseille et Lyon.
Vous les voyez possiblement rentrer dans cette catégorie.
Je vais te dire pour plusieurs raisons.
Là, vous les faites tous rêver, les Niçois, les gars.
Pour plusieurs raisons. Un, c'est un club qui va avoir effectivement les mêmes moyens si cet homme-là arrive et qu'il a envie
vraiment d'investir. Surtout qu'il a, pour l'instant, on ne sait pas.
On verra, mais si c'est le cas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, t'as un club très structuré avec honnêtement quand tu parles de ça à des très bons joueurs de Ligue 1, aller à Nice avec la qualité de vie, la qualité des infrastructures, la qualité du club, ça va pas les rebuter les joueurs. Nice.
C'est une marque mondiale.
Tu vas pouvoir attirer des étrangers, alors faudra pas se tromper, faudra pas que ils attirent des étrangers qui ont envie de vivre sur la Côte d'Azur uniquement, mais ça fait partie. En gros, si à salaire égal, investissement égal, un joueur a le choix entre Lyon et Nice, la qualité de vie que tu as à Nice,
tu vis à Théoul, tu manges de la soca et tu vas t'entraîner, c'est parfait.
Non, mais ça peut compter. Mais ça peut compter.
Après, juste la
première. Si y a un vrai projet sportif derrière aussi.
Franchement, la première plus étape de manger de la soca à Nice. Hein,
c'est,
les touristes.
C'est très bon dans le vieux Nice, ça se mange comme ça à la main, c'est très bon. Ou alors des beignets de fleurs de courgette. Bon,
c'est excellent.
Non, mais la première étape, parce qu'on va regarder très avec beaucoup d'attention, ça va être de voir comment la structure sportive va être organisé. Qui va être président? Est-ce que Julien Fournier va revenir? Qui va être directeur sportif? Est-ce qu'on garde Patrick Vieira? À mon avis, oui. Mais de voir comment les premières pierres de la structure sportive.
Ah, si tu gardes, c'est le recrutement qui s'est très bien derniers temps.
À partir de là, on aura une première indication de quelles sont les réelles ambitions de Ratcliffe. Pour l'instant, ils seront juste contents qu'une belle fortune arrive, mais ça ne garantit pas encore une fois que l'argent soit tout son argent soit injecté dans le club.
Bon, Tony, ça offre des perspectives. Tout son argent,
t'as compris ce que je voulais dire, Pierrot.
Si je peux intervenir, sur la structure avec Ratcliffe. Ça se murmure quand même beaucoup, bon, que pour Ganaï, ça va être très compliqué de rester, mais que, en tout cas, pour Vieira et pour Grimandi, ce serait plutôt le choix de la stabilité, quoi. Donc, si c'est vraiment le cas, nous, on demande qu'à boire, et Grimandi, il est pas né de la dernière pluie, je pense que.
Exactement.
C'est vraiment ce qu'il fait, il recrutera pas n'importe qui à l'étranger juste parce qu'il a plus d'argent.
Exactement.
On est dans la construction d'un projet, je pense que le projet peut se modifier, mais qu'on est quand même sur une volonté de faire éclore des pépites, peut-être en les associant à des cadres qu'on pouvait pas acheter avant. Ah ouais. Et voilà, j'aimerais vraiment voir ce que ça peut donner, notamment si cette structure est gardée, quoi.
T'as raison, Tony. Si tu ajoutes la puissance financière aux compétences qui sont déjà en place, voilà, avec des moyens, ça peut donner très vite quelque chose de très bien.
On a insisté là-dessus plusieurs fois, mais Nice sur les 5-6 dernières années, c'est la plus belle cellule de recrutement rapport qualité prix de Ligue 1. Hein.
Alors imagine,
ils ont déjà plus de moyens, exactement, ouais. Ils ont fait des coups, mais même depuis plus de 5-6 ans. Rappelez-vous les saisons, ils vont chercher, Zvitanić, Jean-Michel Seri pour 3 francs 6 sous.
Zvitanić, ça a été court. Ça a été court. Il a fallu qu'il parte.
Ouais, il a fait une belle saison et après il est un peu parti en cacahuète.
Ouais. Et si tu, à l'époque, moi je connaissais du monde à Nice et ils étaient tous très d'accord pour te dire qu'à l'entraînement c'était pas du tout le même Zvitanić et que c'était très bien qu'au bout d'un an avec ce qu'il avait fait, il part très très vite.
Mais non, il a pas refait de saison exceptionnelle.
Non.
C'était en Argentine, il a été très bien, il était à Banfield avec Renato Civelli.
Ouais. Non mais t'as raison. Par contre, ils ont
Jean-Michel Seri
d'expertise.
Jean-Michel Seri, c'était payé combien? Un million et demi.
Ouais, je sais plus, mais moins que ce qui est reparti.
On me suggère, ça c'est pour Loïc Braillet, on me suggère sur le hashtag RMC Live qu'en fait on a mis un drapeau des bleus pour écouler les anciens maillots où il n'y a qu'une étoile et pour la cacher.
Alors, ils ont recouvert l'étoile.
Faut pas inquiéter Loïc. Hein.
Et pourquoi pas.
Un spécialiste du textile là qui me dit ça.
Faut qu'il retourne le maillot d'un joueur pour voir s'il y a l'étoile derrière. C'est sérieux qui me redit.
On va essayer de découdre le...
Explique-leur avant de les déshabiller quand même.
C'est bon ça. Non mais c'est vrai que c'est étonnant.
Ça serait surprenant quand même.
C'est une petite anecdote. Au fond on s'en fout mais ce serait... En même temps... pourquoi les jeter? Je veux dire, faut le rentabiliser.
Ah bah oui. Tu pourrais à ce moment-là coudre une deuxième étoile à côté vu la.
Ah ouais, mais du coup, elle sera plus, ça passe centré. C'est moche.
Il faut les recycler. Respectons les travailleurs dans le code du tonnerre. Les droits au travail ont été bafoués pour produire ces maillots.
Donc,
ça ne regarde pas, ça te jauge.
Ouais, tout de suite, on monte du doigt sans preuve.
Sans preuve.
T'as des preuves? Ils sont peut-être au Portugal ces maillots, par exemple.
Ouais.
Les maillots
sont souvent faits au Portugal.
Les maillots de match par Nike.
Ah bah surtout les maillots de match. Tu me dis encore les maillots que tu trouves dans les grandes distributions, etc.
Je sais pas, les maillots de match, pas sûr.
Je pense qu'ils font attention.
Tony, merci en tout cas.
Merci Gatti, je peux juste dire un petit truc. Déjà, première chose, je suis hyper content dès que je vois Sarr sous ce maillot. Et deuxième chose, un bisou à la famille quand même qui écoute les supporters niçois et même un supporter marseillais, voilà.
Ah, pourtant en général les niçois et les marseillais c'est pas les meilleurs amis du monde.
Ouais, bah, c'est compliqué les relations familiales devant le foot.
Salut Tony, à bientôt.
Ciao Tony.
Salut.
Voilà les infos niçoises. Alors vous retrouvez encore plus d'infos sur rmcsport.fr bien sûr, et puis demain on en reparlera si les choses évoluent dans l'after. Donc je vous le rappelle, cette info principale, Nice en passe d'être vendu à Jim Ratcliffe, première fortune anglaise, offre de près de 100 millions d'euros donc au propriétaire actuel, notamment le sino-américain Xian Li. Donc ça, quand tu t'appelles Xian Li, on l'a déjà répété à plusieurs reprises, ça partait pas forcément
déjà, c'est bien. Pas facile.
Hatem Ben Arfa, dans quelques instants au programme de l'After, messieurs dames, il s'en va de Rennes. Alors, est-ce que c'est lui qui part ou est-ce que c'est Rennes qui le met un peu dehors? Xavier Grimaud va nous répondre, il était présent à la conférence de presse ce matin. Mais d'abord un point sur les directs, France-Belgique Espoir, Loïc.
3-0 pour les Bleuets, revue d'effectifs effectuée par Sylvain Ripoll, doublé de Jeff Reine-Adélaïde et but de Dembélé face à une triste équipe de Belgique, mais c'est bien pour la confiance, pour la préparation des joueurs concernés. Il y a beaucoup de positifs à ressortir pour le moment des 67 minutes de jeu ici à la MM Arena. 3-0 donc pour les Espoirs.
Et puis le basket, Monaco, Dijon, Angie Wata.
71-62 pour les Monégasques qui déroulent. Il reste 7 minutes et 15 secondes dans le dernier carton de ce deuxième match des demi-finales.
A tout de suite dans l'After, Hatem Ben Arfa au programme dans quelques instants.
RMC, l'After Foot, Gilbert Bribois.
Pierre Ducrot et Jonathan Macardy sont là. Après l'actu niçoise, l'actu rennaise, Xavier Grimaud va nous rejoindre dans quelques secondes juste après un petit tour des directs. Les Espoirs, France-Belgique, Loïc Braillet.
3-0 pour les Bleus. Il reste moins de 20 minutes dans ce premier match de préparation à l'Euro Espoir qui débutera le 16 juin, donc dans moins de 2 semaines maintenant en Italie et à Saint-Marin. 3-0, doublé de Reine Adélaïde et but de Dembélé. Et bah, quasiment tous les joueurs sont sortis. On a fait rentrer Malang Sarr, Cassi, Del Castillo, Guendouzi, Mateta, Niakate, Amian notamment, revue d'effectif pour Sylvain Ripoll. Tout va bien pour pour les Bleus.
Il y a vraiment un gros effectif. Hein.
Ah non, mais c'est incroyable.
Il y a 4-5 joueurs, moi je pense qu'on les verra en bleu assez rapidement.
Ouais, non, mais c'est Mécano, Aouar. T'as quelque chose à faire, quoi. Ouais.
Et rappelons l'absence d'Abdou Diallo dans le groupe pour l'Euro, parce que Abdou Diallo, ça c'est quand même il y a une part de mystère là-dedans, enfin, selon moi, c'est qu'il avait programmé une opération chirurgicale, une intervention chirurgicale, mais bénigne. Alors, certains disent que c'était plus ou moins esthétique. Bon, bref, il avait programmé sensiblement à la période de l'Euro légèrement avant.
C'est un truc avec Valdemar Quitta.
Sauf que non, je pense pas que c'est à ce sujet-là. Mais
il ne fait pas que ce que tu penses, hein, Valdemar Quitta. Il s'occupe aussi de tout. Hein. Peut te faire les implants capillaires.
C'est vrai. Non, mais et on ne sait pas exactement ce que c'était. On ne sait pas exactement ce que c'était.
Faire les implants et qui était tombé malade, qui était forcé pour des matchs.
Et en fait, Diallo, qui était quand même le capitaine des espoirs, vraiment le taulier de la défense, il avait programmé l'intervention tout début juin et ça posait problème à Ribéry parce que il ratait la prépa, il allait être dispo, 48 heures avant le match contre l'Angleterre. Et la contrainte, c'est qu'il pouvait pas faire de sport, d'effort physique pendant 15 jours quand même après cette intervention. Donc ça posait problème à Ribéry. Il lui a demandé, est-ce que tu peux pas déplacer la date de ton intervention? Et bon, là, il y a eu souci. S'il la mettait plus tard après l'Euro, ben c'était la prépa avec Dortmund qui allait être entamé. Avant, apparemment, il pouvait pas non plus, donc il y avait pas trop de solutions. Et Ribéry dit bon, bah ok, bah tant pis, bah tu peux pas faire l'Euro, je te prends pas.
C'est à cause de quoi, tu sais Loïc?
On a pas de détails, je sais pas exactement.
Bah, pour pas faire de sport pendant 15 jours, moi
je oui, mais on sait pas. Mais je sais pas. Franchement,
qu'est-ce qui t'empêche de faire du sport et qui aurait un attrait esthétique et qui t'empêche de le faire pendant 15 jours?
Alors, quand je dis esthétique, c'est en tout cas quelque chose de bénin, c'est un truc qui est pas grave.
C'était pas un truc avec une importance médicale.
Non, voilà. Donc c'est un peu étonnant parce que Abdou Diallo, bon, et malgré ça, il y a Konaté ou Upamecano qui ont débuté la rencontre.
Upamecano, c'est sérieux,
c'est magnifique. Et Moussa Niakate là qui vient de rentrer également, qui joue en Allemagne aussi, c'est parfait. Et Malangsar, vous parliez de Nice, très très bon défenseur aussi. Donc effectivement, il y a quand même du matos dans cette équipe des espoirs.
Le basket Monaco-Dijon, Angie Louata.
S'il reste 6 minutes à jouer dans cette partie, dans ce deuxième match des demi-finales de JP Elite, 75 à 66, un bel écart de 9 points pour les Monégasques. Allez, 5 minutes maintenant à jouer dans cette partie, et donc un bel écart pour les Monégasques qui se dirigent tout droit vers une deuxième victoire. Il leur faudrait plus qu'à enfoncer le clou, il leur resterait plus qu'à enfoncer le clou face à Dijon.
À tout à l'heure. Xavier Grimaud est avec nous. Xavier, bonsoir.
Salut Gilbert, bonsoir messieurs,
bonsoir à tous. Conférence de presse à Rennes ce matin avec Olivier Létang, avec Julien Stéphan qui a confirmé qu'il restait, hein, il a re-signé, donc ça c'est réglé, même s'il y a eu quelques
jusqu'en 2022.
Jusqu'en 2022. Et l'info du jour, c'était Ben Arfa. Donc Ben Arfa va quitter le club, raconte-nous les détails de cette annonce ce matin.
Oui, alors c'est la fin de l'aventure pour Atem Ben Arfa. On a envie de dire comme prévu, hein, c'est la fin d'un faux suspense. On va rappeler qu'il avait signé un an avec le Stade Rennais, plus un an en option si le joueur le voulait et si le club le voulait. Alors c'est un faux suspense parce qu'il y avait peu de doutes au vu de ses dernières déclarations. La chose de base, c'est qu'Atem Ben Arfa ne voulait pas rester. Les dernières déclarations, vous vous souvenez, hein, en zone mixte, notamment après le match face à Guingamp, où il avait critiqué le manque d'ambition, le jeu proposé par son équipe, a été très mal vécu et très justement par Julien Stéphan, parce que c'était une attaque contre le coach en disant qu'il ne prenait pas de plaisir. À partir de là, il y avait quasiment une fin de non-recevoir. Julien Stéphan ne pouvait pas imaginer repartir avec Atem Ben Arfa. Olivier Létang était certainement un peu moins catégorique que cela, parce que Ben Arfa, c'est aussi une tête de gondole pour le Stade Rennais. Mais voilà, à partir du moment où Atem Ben Arfa a fait cette sortie, c'était terminé pour la suite de l'aventure en Bretagne. Alors quel bilan du coup pour Ben Arfa avec cette année rennaise? On peut écouter d'abord le président rennais qui s'est exprimé tout à l'heure, Olivier Létang.
C'est quelqu'un qui nous a apporté globalement sur la saison. Vous savez tous ce qui s'est passé à la fin. Je rejoins aussi Julien en disant que le plus important, c'est le club, c'est l'équipe. Voilà. Atem a pu à un moment donné contribuer à un niveau de performance de l'équipe parce qu'il y avait un projet collectif et qu'il était totalement intégré à ce projet collectif. Voilà. Pour revenir effectivement sur la saison prochaine, oui, Atem ne sera plus au Stade Rennais la saison prochaine. Non, Atem, il a besoin d'avoir du plaisir, de prendre du plaisir et savoir s'il peut en prendre avec nous. S'il peut pas en prendre avec nous, effectivement, il doit aller vers un autre projet.
Voilà, un autre projet, on parle notamment de Touchant, bah, en Espagne.
On va y revenir tout à l'heure, mais sous-entendu de la part de l'étang, oui. Bon, bah, Coco, t'es pas content là, casse-toi, quoi.
Bah, très bien. Oui, c'est une façon élégante de le dire.
Mais très bien, il l'a dit, ce qui est important, c'est l'équipe et le projet collectif. Le mec, il veut pas s'insérer
alors,
à ça.
Xavier.
Tant mieux.
Autre chose à rajouter?
Oui. Alors sur le bilan de Ben Arfa, sera sur la photo pour la meilleure saison de l'histoire du club. Le Stade Rennais 8e de finale de Ligue Europa, le titre que tout le club attendait, Ben Arfa est là. Donc il a fait partie du projet. C'est 41 matchs Ben Arfa dans sa saison rennaise, 35 titularisations, 9 buts, 6 passes. Mais franchement, on peut citer, allez peut-être 8, 9 joueurs plus importants dans le 11 type du Stade Rennais qui a porté véritablement l'équipe. Il a reçu beaucoup trop de compliments, notamment de ses pairs avec le trophée NFP par exemple, par rapport à la saison qu'il a fait. Il s'est pas forcément mis au service du collectif. Je sais pas ce que tu en penses, Pierre, ce que tu en penses, Jonathan.
Mais t'as raison.
Sclérosé un peu même le jeu offensif.
T'es pas surpris.
Le jeu. Non. Ouais, effectivement. Voilà. Donc
voilà. Parfois, ça a été plus un mal pour un bien, Ben Arfa. Dans sa capacité à vampiriser les ballons, certaines actions échouées,
il faut pas cracher dans la soupe. Moi, je pense que c'est un garçon, moi. Quand tu le prends, tu sais à quoi t'attendre. Et je pense qu'Olivier Létang, connaissant très bien le football, Julien Stéphan, connaissant aussi avec mon expérience, mais très bien le football, savait à quoi s'attendre avec Ben Arfa. Ils ont profité du bon. Ils sont parfaitement.
Excusez-moi.
Il y a quand même eu du bon. Il y a quand même eu du bon.
Excusez-moi, mais
pas assez. Mais t'en auras jamais plus avec Atem Ben Arfa. Mais
le problème, t'en as eu plus à Nice, par exemple.
Le problème, voilà, c'est quand même. Non, mais il y a quand même un problème.
Beaucoup plus.
Excusez-moi. Ben Arfa, excuse-moi, mon petit Atem, je te comprends pas. Voilà. À Nice, il a fait lanterner la terre entière pendant un an sur le thème je pars peut-être pas, et puis peut-être que si. Bon, au final, il s'est barré. Là, il était dans la mouise, quand même. Rennes lui a tendu la main. Tu vois?
Ouais, non, mais moi, je suis pas surpris.
Le gars, comment est-ce qu'il remercie Rennes? En finissant, en disant, de toute façon, ici je m'emmerde, ça joue pas, c'est bidon.
Mais tu veux que je dise, quand il le dit, il est sincère. Je suis sûr qu'il est sincère.
Oui, mais réfléchis deux secondes, quelle reconnaissance quand même.
Non, il réfléchit. C'est pas quelque chose de.
Mais si j'ai réfléchi, c'est pire.
La reconnaissance du ventre. Mais c'est quand même scandaleux.
Gilbert, je vais terminer. Je pense que c'est réfléchi ou en tout cas qu'il le pense sincèrement. Mais il se rend pas compte.
Eh ben c'est pire encore.
Mais oui, il se rend pas compte de ce qu'il dit sur le fond, quoi.
Après, les gars,
c'est ça le problème. C'est pour ça que moi je suis pas surpris.
Et maintenant il va faire quoi?
Non mais alors il va trouver un autre club.
Si on regarde purement et froidement la situation,
où est-ce qu'il va? Il croit qu'il va aller où pour trouver du beau jeu? Il croit qu'il va aller signer à Barcelone ou à Liverpool?
Non, je pense qu'il est plus lucide que ça quand même. Il sait qu'il ira pas à Liverpool ou à Barcelone.
Un club comme le Betis.
Donc il va aller à Auxerre avec Brest, avec Furlan.
Moi, je serais joueur, je serais Ben Arfa, j'irais, je cours voir Jean-Marc Furlan.
Je pense qu'il y a un juste milieu entre la GIA et le Barça.
Oui, mais c'est Jean-Marc Furlan, mon pote.
Oui, non, mais je sais, j'ai eu Jean-Marc.
Tu connais l'admiration.
J'ai eu Jean-Marc deux ans, donc. J'ai à peu près la même admiration que toi pour Jean-Marc, mais voilà. Moi, je pense que c'est un garçon sincère, mais déconnecté d'une certaine réalité. Et c'est tout, voilà.
Analysons la situation froidement, ok? Pour moi, je pense que pour le Stade Rennais, de pas avoir Ben Arfa, eh ben écoute, c'est un mal pour un bien, parce que je persiste à dire que même si quelquefois il y a eu des coups d'éclat, il a un petit peu sclérosé le jeu offensif de son équipe, plein de fois en annihilant certaines situations, en jouant beaucoup trop
perso. Oui, mais ça a apporté aussi des choses.
Deuxièmement,
des choses aussi.
Quand tu dis oui, mais tu le prends avec c'est bien, c'est défaut, mais tu sais qu'il va t'apporter. Oui, je suis d'accord, mais je trouve que les côtés positifs n'ont pas été assez nombreux comparé à ce qu'il a par exemple fait à Nice.
Parce qu'il prend Nice aussi, il est pas dans la même forme physique qu'à Nice.
Je suis d'accord, Pierre. Mais par exemple, à Nice, il avait les mêmes travers, mais il était beaucoup plus décisif. Là, au final, il n'a pas été si décisif que ça. Et le troisième raison pour laquelle, si je suis Rennais, c'est pas si grave que ça. T'as des solutions en interne.
Ah, mais moi, je te dis pas que c'est grave, attention.
Tu peux faire monter Clément Grenier d'un cran. T'as des bons joueurs sur le plan du offensif, donc ça, c'est pas grave.
Oui, et puis pour lui,
franchement, son comportement, je le trouve zéro. Tu vois,
je valide pas et je dis que c'est bien. Je dis que je suis pas surpris.
Tu mords la main qui t'a nourri. En revanche, il a 32 ans. Qu'il fasse ce qu'il veut. Il a eu connu une carrière avec des hauts et des bas, un truc super romanesque. S'il a envie de se faire un kiff d'aller en Espagne, de prendre du blé, parce que même s'il en a beaucoup, beaucoup gagné, moi, je me mets à sa place. Si je m'étais déjà fait beaucoup de blé, je me chercherais à m'en faire plus. Qu'il aille. Franchement, c'est gagnant-gagnant. Cette séparation, elle est gagnant-gagnante.
Pour être tout à fait précis, pour pas qu'il y ait de méprise, je ne dis pas que ce qu'il a fait est bien et normal. Je suis d'accord avec toi, c'est pas bien. C'est un manque de respect, mais je ne suis pas surpris.
Mais t'es pas
très
respectueux comme garçon, d'accord?
Je pense qu'Olivier Létang et Julien Stéphan n'ont pas été surpris.
Une question directe à Xavier.
Ça s'arrête et c'est normal.
Xavier, est-ce que t'as eu le sentiment clair que c'est l'étang et Stéphane qui ont, en gros lui ont dit écoute mon coco t'as un an de contrat maintenant casse-toi, ou est-ce que c'est lui qui a pris les devants en disant de toute façon je
mais tout en option, mais tout en option.
Non, c'est plutôt Ben Arfa qui a dit qu'il ne voulait pas rester parce que voilà comme il l'a dit il se faisait chier. Olivier Létang, au contraire, je pense pour lui c'était un pari réussi. Hein, Olivier Létang à Tem Ben Arfa, il était ravi qu'il signe au Stade Rennais.
Xavier Létang, combien de salaire
Stéphane, ben il avait un très gros salaire, c'est pour ça.
C'était
quel club en Espagne? Alors c'est toujours compliqué les salaires, mais on parle de 320 000 euros et une grosse prime à la signature. Donc il a coûté cher hein, sur l'année au Stade Rennais. L'investissement a rapporté un titre en Coupe de France, mais il va falloir qu'il trouve un club en Espagne qui va où il va avoir le même salaire qu'à Rennes.
Et un club au portefeuille.
Il va s'intégrer au projet collectif.
Pourquoi l'Espagne?
Il a une énorme cote à Séville. Il y a Monchi, notamment le directeur sportif du FC Séville, qui le suit depuis des années.
Ouais,
il
c'est
a,
un vieux fantasme pour Monchi.
Exactement. Son homme de confiance, Michel Oisin, était à Séville il y a encore 15 jours. Il y a le Bétis qui est dessus. Il y a le FC Séville qui est dessus. Mais s'il a la même attitude collectivement dans les clubs sévillans qu'il a à Rennes, je vois pas comment il peut s'intégrer au projet.
Et le même rendement, surtout Xavier. Il a toujours eu cette attitude.
Je suis désolé. Sa saison, elle est pas si bonne que ça. Elle est moyenne.
Non, elle est pas. Pour moi, elle est moyennement basse.
Mais je suis d'accord, ouais, Xavier, tout à fait.
Comment l'avis d'Arthur au 32-16, les gars. Arthur, supporter Rennais, bonsoir.
Bonsoir, messieurs.
Salut, Arthur.
Bonsoir, qu'est-ce que t'en penses de tout ça, toi?
Eh bien, écoute, je suis à moitié d'accord sur ce que vous pouvez dire, parce que, alors, humainement, au niveau du comportement, à Tem Ben Arfa, c'est un échec. C'est un échec, malheureusement, sur l'année. Ça, on peut pas le nier. Et ça fait partie, à mon avis, des arguments pourquoi il va arrêter sa collaboration avec Rennes. Par contre, sportivement, je trouve que c'était une réussite. Parce qu'on oublie, trop d'où il vient à Tem Ben Arfa. C'est que ça faisait un an et demi qu'il n'avait pas joué. Faire une année comme ça, alors qui n'est pas incroyable en vue du standing de ce joueur, mais un an et demi sans jeu, sans rythme, je trouve que ce n'est pas mauvais, je trouve que c'est plutôt correct, c'est une réussite, je trouve. C'est un pari qui a été réussi, comme vous l'avez dit, avec un titre à la clé, un gros salaire, certes, mais aujourd'hui, je suis assez mitigé. C'est bien pour être de s'en séparer, parce que, comme vous pouvez le dire, Clément Grenier a sa place devant, on l'a vu des matchs contre Marseille, ou d'autres matchs, où lorsqu'il jouait un peu plus haut, et ben Rennes avait un jeu un petit peu plus léché, c'était plus varié. C'était différent, tout le tournoi.
Clément Grenier, c'est la réussite du mercato rennais. C'est pas
Ben Arfa. Moi, au-delà de ça, je dirais Tassi. Ah bon, mais
ah bah
Ben
Arfa. Oui.
Parce que pourtant, alors, Grenier, il a fait une meilleure saison que Ben Arfa.
Ah, ben largement. Il a joué quasiment milieu défensif, et justement parce qu'il y avait Ben Arfa avec Benjamin André, et c'est devenu un des meilleurs double pivots de la Ligue 1.
Oui, bah, entre les trois, tu m'as cité André, Grenier, Ben Arfa, moi je suis dit que c'est André qui a fait la meilleure saison.
Mais bien, non, mais ça, il y a pas de souci là-dessus. Mais Clément Grenier, en jouant dans un rôle quasiment contre nature,
il a eu un rôle un peu différent de
regardez
ce qu'il
juste
pu avoir,
le nombre de kilomètres parcourus et de ballons récupérés par Clément Grenier. Clément Grenier, cette saison, c'est devenu un milieu défensif de très bon niveau.
Les deux ont été très bons,
eh oui.
André,
je comprends ce que dit l'auditeur sur le côté, il n'avait pas joué depuis un an et demi à Tem Ben Arfa. Arthur, qu'est-ce qui obligeait à Tem Ben Arfa à signer le 2 septembre au Stade Rennais, alors que le Stade Rennais lui faisait la cour dès le début de la saison? Il a attendu le dernier moment pour. Savait qu'il serait pas en forme après plusieurs mois. Oui. Donc ça montre bien que c'était un choix pas par défaut, mais il a mis beaucoup de temps à se décider. S'il aimait tant que ça le foot, il pouvait signer Arthur, se remettre en forme.
Le rendement, salaire, investissement, performance, quand tu fais le ratio, t'es loin du compte quand même.
Bah, le standing du joueur, oui, d'accord, il s'est fait un petit peu enfler la cote avant la fin du mercato. Je trouve pas que ce soit un échec sportivement. Clairement, c'est pas un échec parce qu'on sait ce qu'Atem Ben Arfa est capable de faire. Comme le disait Olivier Létang, c'est un homme, c'est un joueur qui fait lever des foules, et ça c'est vrai, il a marqué des buts, il a fait des actions, des coups d'éclat en une année.
Je suis d'accord.
Il joue 45-50 matchs. 30 matchs.
Ça a participé à une dynamique, en fait.
Oui, voilà, c'est ça. Ça a participé à une dynamique. Et tout était bien aussi avec Atem. Et c'est vrai que la fin, malheureusement, il est en train de casser un petit peu son jeu à Atem Ben Arfa. C'est dommage. C'est dommage parce que je pensais vraiment qu'il avait pris de la maturité cette année. Il disait Rennes, c'est pas le plus grand club, mais on vient se relancer. C'est dommage. C'est sur le point comportement, c'est dommage. Après, voilà.
Mais est-ce que t'es surpris, Arthur?
Arthur, il faut qu'on arrête là. Je m'excuse, Pierre, mais parce que le temps passe, il est déjà 22h43. Merci, Arthur.
Merci à vous.
Ciao.
Bonne soirée. Xavier, merci également.
Bonne soirée, messieurs.
Ciao, Xavier.
Ciao, Xavier. Et puis, donc, on fait état de contact entre Ben Arfa et puis les deux clubs de Séville, hein. Donc,
Il va être bien là-bas,
soleil. Va-t-il rebondir? On ne sait pas encore.
On mange bien là-bas, en plus.
Dans quelques instants, Antoine Griezmann au programme. On va parler de l'équipe de France qui a joué hier soir. Et aussi de l'avenir de Griezmann. Le Barça ou pas. Apparemment, Messi ne veut pas de Griezmann. Et quand Messi dit, en général, le Barça fait.
Donc, Messi qui est une
Ouais, c'est exactement. Donc on va voir avec les infos de
Fred. Bon,
toutes les infos bien sûr à suivre et puis l'avis de Pierre de Jonathan là-dessus. C'est fini au basket entre Monaco et Dijon, Angie.
Ouais, c'est terminé. Belle victoire des Monégasques. 84 à 75. Ils n'ont jamais tremblé au cours de ces quatre cartons face à Dijon. Ils se déplaceront en terre dijonnaise. Ce sera jeudi à 20h45. Merci Joe pour la petite chanson. Dijon, en cas de victoire Monégasque à Dijon, les Monégasques se qualifieront pour la finale de la Jeep Elite.
L'équipe de France Espoir, match amical face à la Belgique, Loïc Braillet.
Dans deux minutes, la fin de match, 3-0 pour les Bleuets, doublé de Reine Adélaïde et but de Dembélé, une partie probante pour les hommes de Sylvain Ripoll, à un peu moins de deux semaines du début de l'Euro.
À tout de suite dans l'After avec Antoine Griezmann au programme.
RMC, l'Afterfoot, Gilbert Bribois.
Pierre Ducrot est là, tout comme Jonathan Macardy. C'est terminé pour l'équipe de France Espoir face à la Belgique, Loïc Braillet.
Terminé, victoire 3 buts à 0 des Bleuets, doublé de Reine Adélaïde et but de Dembélé. Il y a 3 jours off maintenant pour les hommes de Sylvain Ripoll. Un stage en Autriche ensuite semaine prochaine et le début de l'Euro le 16 juin en Italie et à Saint-Marin, Angleterre, Croatie, Roumanie pour les 3 adversaires en phase de poule, demi et finale espérée ensuite donc pour la première phase finale d'un Euro depuis 2006 pour les espoirs français avec beaucoup d'ambition donc et d'espoir de briller là-bas en Italie.
Merci Loïc, bonne soirée. Les matchs des espoirs qui seront à vivre sur RMC donc comme des grands matchs hein, d'année tout à l'heure, la semaine prochaine, tout comme l'équipe de France féminine à partir de vendredi.
Ça peut être très bien.
Tout comme les grands matchs de la CAN à partir du 21. Alors la Copa América c'est un peu dommage, c'est toujours pendant la nuit. Pas très arrangeant.
On va faire des petits.
C'est quoi les horaires cette année
Il y a des matchs en soirée quand même. Il y a des matchs qui sont de l'après-midi là-bas au Brésil et qui seront du coup en soirée en France.
De 15 en tout cas.
Le match d'ouverture, je crois qu'il est à 3h du mat, Brésil Bolivie.
On peut faire un after allongé jusqu'à 4h.
Là, c'est très allongé là. Petite info du soir, Éric Choupo-Moting dans Footissime il y a quelques minutes a déclaré je reste au PSG.
Ah bon ?
Ah,
bah la soupe est bonne.
Bon,
faut-il le voir comme une bonne nouvelle ou pas ?
La soupe est bonne.
Très bon,
pour lui, oui, très bonne.
Pour lui, je pense qu'on t'en manque.
Non, moi, j'aime bien. Moi, j'ai du mal à. Non, j'aime beaucoup ce garçon, mais effectivement, en termes de niveau, c'est pas ce que t'attends au PSG.
C'est un scandale qu'il soit au Paris Saint-Germain. Même dans l'effectif, même pour
après,
faire le nombre, il a pas de niveau.
Tu sais que tu veux que je te dise, Joe, si t'avais réellement, aucune défaillance dans ce qui est les 13, 14 vrais titulaires, toute la saison, tu pourrais te contenter d'un mec comme ça pour faire les coups, pour jouer.
Même pour les coupes, j'ai pas
le problème, c'est que le reste a été défaillant. Donc forcément. Mais bon, bonne nouvelle pour lui.
On peut réagir au 32-16 si vous le désirez. En tous les cas, on va parler maintenant de Griezmann. Jonathan voulait en parler, Pierre aussi. Tiens, j'ai un petit jingle Macardy, tiens, pour la peine.
C'est neutre, y a rien, tu sais même pas quel est leur style de jeu. Si t'as envie d'être défensif, d'avoir une équipe de petites garces qui met des pains, assume et fais-le à fond.
C'était qui ça? C'était pour le match de l'after l'année dernière, c'est ça?
Ah, mais en tout cas, ça correspondra à notre style, Pierre, cette année, hein.
On ira comme voilà. Ça.
Je rappelle que la draft du match de l'after démarre demain. Ça va être, considérable.
Ouais.
Attention, petite blessure de Rio Mavuba.
Ah, pas petite blessure, il m'a dit claquage, moi.
Ah, t'as plus d'infos, alors.
Ah oui, moi, il m'a dit, peut-être que je gaffe, mais moi, en off, il m'a dit claquage la semaine dernière, hein, donc.
C'est forfait l'année prochaine, alors.
Je pense qu'il aura du mal à accélérer. Hein.
Bon, en tout cas, la liste des 40 joueurs est dévoilée demain et début de la draft demain soir.
C'est une bonne info à savoir pour les deux qui vont.
Ils sont pas là, les deux sélectionneurs.
Ouais, mais s'ils écoutent, c'est leur job. S'ils écoutent pas les infos,
faut faire un peu de scouting.
Ah, bien sûr.
Voilà,
bien sûr.
On va rien leur dire, tiens, sur
non,
Rio.
Non.
Alors, ils vont le prendre en un.
Un mec claqué.
Et bam.
Tiens, Daniel qui critique tous les mercato des clubs, etc.
Exactement.
Dire, tiens, toi, ton premier choix, c'est un joueur claqué, quoi.
Voilà, exactement. Griezmann en équipe de France, tu voulais en parler après le match hier soir.
Parce qu'en fait, je trouve que le constat qu'on peut faire de la perception que les gens en général ont d'Antoine Griezmann, il est assez loin de la réalité. Je me constate chez beaucoup de gens une certaine propension à esquisser un petit sourire un petit peu narquois ou un petit air de moquerie quand on leur dit qu'Antoine Griezmann, c'est un des meilleurs joueurs au monde actuellement. Donc je peux le comprendre quand on regarde les prestations, je ne le comprends pas, mais j'ai essayé de m'expliquer ça et j'ai trouvé quelques raisons. Alors, j'en ai trouvé 5 assez majeures. Premièrement, c'est que c'est vrai que parfois Et je pense qu'il est un petit peu victime de sa communication qui est un petit peu hasardeuse avec en figure de proue, la vidéo de sa décision, son interview.
Je voulais revenir,
voilà, son interview dans Têtu qui avait été un petit peu maladroite aussi. Bon, voilà, première raison. La deuxième raison, je pense qu'il y a encore des gens qui sont restés bloqués sur, à l'heure des réseaux sociaux, sur l'épisode de la blackface. Là, j'ai fait un petit tour de Twitter, j'ai encore eu des gens dire, Griezmann le raciste.
Ah
ouais, c'est passé, mais il y a encore des gens qui le ressortent. Franchement. Troisième raison, t'as eu l'avènement de Kylian Mbappé et qui fait que on a trouvé un nouveau roi. Tu sais, on est dans un pays où on aime bien oublier ce qu'on a adoré autrefois et pour vite se jeter vers la nouveauté. Ça, c'est une des tares principales des jeunes générations et la mienne y compris. Donc je pense que ça fait partie des raisons. Quatrième raison, c'est que c'est vrai que quand on regarde la dernière grande compétition des Bleus sur sa Coupe du Monde, il a été excellent.
Très bon.
Pour moi, il a été excellent, mais il a pas fait des actions hyper spectaculaires. Tu sais, on est à l'heure du YouTube, du Twitter, des vidéos highlights la nouvelle génération et donc pour les gens, Griezmann. C'est pas un joueur spectaculaire. Donc forcément, il est pas bon. Et puis t'as aussi ce positionnement marketing qui, à mon avis, est peut-être un petit peu loin des codes de la nouvelle génération française. Contrairement à un Pogba ou un Mbappé, tu sais, qui ont réussi à connecter avec ce truc un petit peu street, un petit peu cool, qui correspond plus aux attentes du public français. Donc pour ces raisons, j'ai l'impression que Griezmann, on a tendance à oublier quel joueur fabuleux c'est. Et ce match contre la Bolivie, à mon sens, il a un petit peu agi comme une bonne piqûre de rappel, tu vois, qui ont remontré aux gens qu'est-ce qu'est Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, c'est un joueur de classe mondiale. Sans lui, l'équipe de France, c'est pas l'équipe de France. Antoine Griezmann, c'est l'espèce d'huile que tu mets dans ton moteur pour que tout fonctionne bien. Alors, t'as ses déplacements entre les lignes qui sont toujours extraordinaires, t'as cette capacité à revenir au milieu de terrain, à faire le pas en avant ou en arrière pour repositionner ton bloc, t'as son sens de la passe, son jeu long, son jeu court, ses qualités qui sont vraiment létales dans les 30 derniers mètres, et je suis désolé, on a aucun joueur comme lui. Alors plus que ses qualités individuelles, ce qui fait qu'à mon sens il transforme la face de l'équipe de France quand il est là, c'est son sens du collectif, son sens du sacrifice qu'on a vu par exemple dans le match contre l'Uruguay en Coupe du Monde. On a tendance à dire que ce match était peut-être un petit peu moyen de sa part, mais la grinta dont il a fait preuve, la manière dont il a su remobiliser les troupes, parce que c'est pas un match qui a été facile, je pense que ça a été le match le plus dur des Bleus en Coupe du Monde, mais sa capacité à se comporter comme un leader, il y a pas. Alors je suis désolé, pour conclure, très franchement, j'ouvre peut-être des robinets d'eau tiède pour les vrais connaisseurs qui pour eux, c'est évident, Griezmann, c'est le patron, le taulier de l'équipe de France. Mais je tenais juste à le rappeler qu'on n'a aucun joueur de cette capacité-là, de ce talent-là, avec ses capacités, et que franchement, c'est le patron des Bleus et il n'y a pas photo.
Pierre, est-ce que tu es d'accord?
Ouais, moi je fais partie de ceux pour qui Joe ouvre des robinets d'eau tiède. Pour moi, c'est le leader avec Paul Pogba de l'équipe de France. Si effectivement, je suis même pas sûr, je vais même pas dire la jeune génération, parce que je suis persuadé qu'il y a plein de jeunes qui voient les qualités de Griezmann. Il y a une frange de gens qui ne connaissent pas bien suffisamment le football pour pas s'en apercevoir peut-être, voilà, et qui sont axés sur des, comme tu le dis, des gestes, des actions, des buts ou des trucs comme ça.
C'est la personnalité aussi.
Ouais, mais peu importe. Moi, je pense qu'il y a une grosse partie du public et notamment du public français qui aime Griezmann et qui connaît l'importance de Griezmann en équipe de France. Moi, j'en suis persuadé. Ce sur quoi moi je voulais plutôt rebondir, parce que je partage ton avis. Griezmann en équipe de France, c'est le leader, c'est un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur depuis beaucoup, et c'est celui qui est le plus régulier également.
C'est le meilleur joueur de l'équipe de France depuis Zidane.
Et c'est lui qui est le plus régulier surtout. C'est ce qui est important à noter. Moi, sur ce sur quoi je voulais rebondir, c'était plus pas l'inquiétude, mais l'incompréhension sur une nouvelle fois, et tu l'as soulevé un petit peu, sur sa com, quoi. Comment, quand tout n'est pas réglé, bien ficelé, avec un... Tu voulais peut-être pas que je parte tout de suite là-dessus ?
Non, mais en fait, tu fais une transition parfaite, parce que ça veut parler forcément du Barça.
Ouais, tout à fait, ouais.
On va en parler avec Fred Hermel dans quelques instants. Bouge pas, juste après la pause. Et comme ça, Fred pourra participer au débat.
Bien parti.
Parce que la com de Griezmann pourrait peut-être lui coûter son transfert au Barça. On vous explique tout dans quelques instants dans l'after.
RMC, l'Afterfoot.